que le Canadien va réussir à avoir deux récipiendaires en ligne gagnant du trophée Calder? C'est pas. Ça se peut, par contre. On va demander ce que Marty en pense. Salut, Marty!
Hey, salut, les gars, moi, ça va?
Ça va bien, toi?
Ah oui, ça va super bien.
Là, on t'a demandé de faire l'exercice. Tes candidats potentiels pour décrocher le Calder. On s'entend-tu que Ivan Demidov est en haut de la liste?
On s'entend qu'il est au haut de la liste. Je pense que c'est assez clair, là. Puis, tu sais, j'entendais parler avant la pause, là. Oui, les sept matchs l'ont aidé et tout ça. Mais même si on exclut ça, je pense que t'es obligé de le placer comme favori. Tu sais, le niveau de créativité qu'il a montré l'an dernier dans une ligue qui est quand même pas piquée des verres, la KHL, on l'a déjà mentionné souvent, tu sais, tout était contre lui. Roman Rothenberg, qui le clouait particulièrement au banc, a tellement forcé la main de son entraîneur-chef qu'il a forcé à l'utiliser sur le premier trio en série. Il a forcé vraiment à l'utiliser dans des situations intéressantes. Tu vois les mains, tu vois le caractère, tu vois que défensivement, c'est quelqu'un qui est pas mal meilleur que ça, à quoi on pourrait s'attendre. Et excluant ça, je te dirais qu'Ivan Demidov, ça c'est souvent important lorsque tu passes du trophée Calder, c'est l'occasion que le joueur va avoir de produire et d'obtenir des points. Tu sais, tu parlais de Dylan Hudson, moi personnellement, l'an dernier, je le voyais pas gagner le Calder parce qu'il y avait Michael Matheson devant lui. Mais Demidov, lui, débarque immédiatement au sein d'un top 6 et il n'y a pas de doute, il n'y a pas personne d'autre que tu peux voir devant Demidov.
Ouais.
Soit il va jouer avec un Cole Caulfield, soit il va jouer avec un Patrick Laine, un Zachary Bolduc. Donc, il va avoir tout en jeu intéressant. On va le placer avec des joueurs intéressants également. Donc, pour toutes ces raisons-là, personnellement, c'est mon choix pour le Calder. Et c'est difficile d'aller avec quelqu'un d'autre.
Ouais, puis tu sais, Marty, je sais que tu penses exactement de la même façon que moi là-dessus. Hein. La saison de la Ligue nationale de hockey a comme plusieurs stades. Tu sais, il y a le stade saison régulière jusqu'à Noël, après ça jusqu'au deadline, après ça le dernier droit des séries, les éliminatoires. Demidov, on l'a vu dans le dernier droit de la saison, où est-ce que tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey, les vétérans aguerris, sont déjà au sommet de leur forme. Oui, il y a des petits bobos à gauche puis à droite, mais tout le monde a la pédale au plancher. Lorsqu'il va débarquer l'année prochaine, en octobre, en novembre, en décembre, là, après moi, il va en mettre plein la vue à tout le monde, là.
Puis par rapport à ce que tu vois des eaux, là, je te dirais aussi, tu sais, souviens-toi d'Emidov, là, il y a une grosse différence entre la fin de la saison et les séries éliminatoires. C'est normal, t'affrontes des meilleures équipes et tout ça. Mais tu sais, il l'a déjà mentionné un peu entre les branches de ce qu'on a pu entendre, là, qu'il avait été renversé par l'exécution, par le fait qu'il y avait très peu d'espace en série, ce qui est absolument vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé cet été? En tout cas, les échos qu'on en a, c'est qu'il met les bouchées doubles. Il travaille extrêmement fort à Brossard. Premièrement, chapeau à Demidov et sa conjointe. On est demeuré au Québec pour vraiment s'imprégner de la culture, pour être à l'aise dans le nouvel environnement. Il travaille. Je te dirais que Ivan Demidov, ce que tu peux voir depuis qu'il a été repêché par les Canadiens, c'est que oui, c'est un talent incroyable. Oui, il a des mains en or. Oui, c'est quelqu'un qui a un bon tir également, capable de se démarquer de plusieurs façons. Mais la façon qu'il a été en mesure de devenir beaucoup plus complet dans son match. Tu sais, à son année de repêchage, là, il y avait des doutes sur son coup de patin, il y avait des doutes sur sa capacité à protéger la rondelle en coin de patinoire, c'était pas toujours évident. Et tout plus la saison a étalé l'an dernier, meilleur il a été. Et donc là, il s'est attardé à être meilleur en protection de rondelle, peut plus fort physiquement, à prendre des décisions plus rapidement, parce qu'il a compris certaines choses lors des séries éliminatoires contre les Capitals de Washington. Ben, on peut se permettre d'être... On voit déjà de belles choses, là. Mais c'est jusqu'à quel point il est capable d'amener ça, ça va être à voir. Là.
Ah ouais, ça va être très optimiste, il n'y a pas de doute là-dessus. Il va avoir une belle saison. Mais par contre, pas le seul. Il y a quand même quelques candidats intéressants. À commencer par son ancien coéquipier chez le SKA, Alexander Nikishin. On a vu certaines frictions là, dans les contrats avec les Hurricanes puis l'utilisation. Mais d'après moi, l'année prochaine, il va jouer en masse puis il devrait être bon sur la patinoire.
Ouais, exactement. Ben, Alexander Nikishin, c'est quand même quelqu'un qu'on attend depuis plusieurs années. Pour ceux qui le connaissent moins, tu l'as mentionné, ancien coéquipier d'Ivan Demidov, c'était le capitaine du SKA de Saint-Pétersbourg. Ça fait déjà deux. Dans les trois dernières saisons, là, ça a été vraiment non seulement le meilleur défenseur de la KHL, mais là, les meilleurs joueurs de la Ligue au complet. Là, des saisons au-dessus de 40 points en une soixantaine de rencontres. Et Nikishin, ben là, évidemment, il y a eu quand même quelques départs chez les Hurricanes de la Caroline, notamment Dmitri Orlov, Brent Burns, ce qui fait en sorte que c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs sur le flanc gauche. On a acquis Andrew Miller, Jacob Slavin et des gars comme ça. Sauf que sur le flanc droit, premièrement, c'est beaucoup moins nanti. Et je pense que c'est là qu'un Nikishin peut se développer de plus en plus de place dans la formation. Offensivement, il est excellent. C'est quelqu'un qui se complique pas nécessairement la vie, dirige les tirs au filet et se contente vraiment de faire les bonnes choses. Mais je pense que son jeu, c'est surtout son jeu défensif qui va être apprécié. Donc, je pense que si Nick Shin peut sortir de la saison avec un temps de jeu, disons, entre 22 ou 23 minutes, qu'il a été capable de gagner la confiance de Rod Brind'Amour et que finalement, il est capable de justement de faire un excellent travail au sein d'un, par exemple, un top 4 en défense, parce que je le dis à droite, là, il n'y a pas grand monde. Le meilleur défenseur droitier chez les Hurricanes, c'est Jalen Chatfield. Si Nick Shin peut jouer à droite et se tailler une place, il va gagner quand même quelques points.
Ouais, mettons qu'il n'est pas trop bloqué présentement, puis c'est sûr qu'il va avoir de grandes responsabilités. Bon, les partisans se souviendront peut-être que lors du premier match d'Ivan Demidov contre les Blackhawks, il y avait un certain Sam Rinzel de l'autre côté, défenseur à caractère offensif, qui a quand même récolté quelques points en fin de saison là, avec les Blackhawks. Lui aussi va être à surveiller, Marty.
Ouais, si tu me parles pour moi des eaux, là, je pense que Renzel est peut-être le plus grand rival de Demidov. Et je vais m'expliquer, là. Premièrement, je trouve que sa progression, son développement, c'est super bien fait. À 18 ans, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes au niveau de sa gestion de la rondelle, commettait beaucoup de revirements, mais tu voyais que le talent offensif était là. Bon coup de patin, bon tir, n'hésite pas, capable de bien longer la ligne bleue en avantage numérique et tout ça. C'est vraiment un quart arrière. Mais là, en plus, chez les Blackhawks de Chicago, ben, on l'a vu justement vers la fin de la saison, étant en mesure d'obtenir 5 aides en 9 matchs, avait été très bon contre les Canadiens de Montréal, justement dans le premier match de Demidov. Et là, il va débarquer avec les Blackhawks. Il n'y a pas vraiment personne qui est capable de lui prendre une place au sein de la première paire. T'sais, oui, tu as peut-être Artem Levchunov, mais il est un peu plus jeune. Je pense qu'il y a du progrès à faire peut-être au niveau défensif et tout ça. Connor Murphy, on oublie ça, c'est un défenseur peut-être un peu plus défensif, peut-être pas le genre de gars que tu veux pour pivoter ton avantage numérique, que tu veux obtenir 24-25 minutes. Donc, pour ces raisons-là, tu sais, si tu mets Rinzel, par exemple, tout le temps sur la patinoire avec des Connor Bedard, des Tyler Bertuzzi, des joueurs comme ça, ben c'est sûr que ça améliore ses probabilités pour ramasser des points, pour obtenir un peu plus de temps de jeu et par conséquent, ben, être dans l'éduction pour le quart d'heure.
Ouais, puis d'après moi, début, il va s'en marquer à Chicago. Là, on va vouloir entourer Bedard, on va vouloir poursuivre pour justement le rendre heureux. Puis d'après moi, en avantage numérique, il devrait être capable de récolter sa part de points. Bon, on a parlé beaucoup de défenseurs, on va aller du côté de l'un attaquant. Il y a peut-être une raison pour laquelle que les Blues ont laissé partir un Zachary Bolduc, parce qu'ils ont des attaquants qui poussent. On peut penser à Dalibor Dvorsky, mais tu veux surtout nous parler de Jimmy Snuggerud.
Ouais, Jimmy Snuggerud, que j'ai toujours adoré là, depuis son année de repêchage et tout ça. Puis on l'a vu dès le départ avec les Blues. Là. Dès qu'il a trouvé une façon d'entrer dans la formation, il s'est établi très rapidement au sein du top 6, même au sein du premier trio. C'est là qu'il a joué lors des séries. Et Snuggerud, c'est quelqu'un, moi, que je trouve qui est très complet dans plusieurs aspects. Sa grosse qualité, c'est son tir des poignets. Même avec les Blues en série, on l'a vu utiliser de cette façon-là. On utilisait un peu Bolduc aussi, mais Snuggerud avait un peu le rôle devant le filet, pouvait parfois se retirer un peu et décocher des bons tirs. Mais c'est là que Snuggerud est assez fascinant. Donc, capable de tirer, excellent défensivement. C'est un maître du désavantage numérique. Mais pour toutes ces raisons-là, tu sais, Snuggerud, on l'a vu, 4 points en 7 matchs avec les Blues durant la saison, la même production exactement durant les séries. Et déjà au sein d'un premier trio, tu sais, il y a toutes sortes de rumeurs avec un Jordan Carew, par exemple. Je dis pas que c'est parce que Snuggerud est bon qu'on veut les échanger et tout ça. Mais tout ça pour dire que Snuggerud va avoir un rôle important. Clairement, déjà, Jim Montgomery l'adore et s'il l'utilise à profusion, qu'il place avec des Robert Thomas et compagnie, mais surveillez-le parce que je pense que les points vont venir. Là.
Ouais, puis il est quand même un bon gabarit, là, 6 pieds 1, pas loin de 200 livres. Là, il est capable de se déplacer sur la patinoire puis de rentrer là, dans le moule des Blues de Saint-Louis. Marty, écoute, je reviens sur les défenseurs. Il y a un gars comme Bouillum avec le Wild, un gars comme Parek avec les Flames. Il y a encore plusieurs candidats là, qui vont intéresser pour un Calder.
Ouais, je suis pas sûr d'y aller avec Dave Bouillum. C'est drôle au départ parce que je voulais pas le mettre, Dave Bouillum. Je sais qu'il est très haut dans les probabilités. Il est deuxième, notamment, dans les sites que j'ai consultés. Par contre, l'aspect qui est intéressant avec Dave Bouillum, ben, on connaît les habiletés de gagnant qu'il a. Déjà gagné le championnat mondial junior 2 fois, gagné le championnat de la NCAA en 2023-2024. Tu sais, c'est écrit gagnant dans son front. C'est quelqu'un qui a l'audace de créer des jeux, qui est très, très bon avec la rondelle, qui a un bon tir également. Et qui est quand même assez costaud pour sa taille. Donc, tu sais, Yves Bouillum, c'est sûr que tu as le considéré. Ce qui a fait un peu changer mon idée, c'est que Jonas Brodin s'est blessé cet été. C'est pas certain qu'il va commencer la saison du côté du Wild. Et ça, ça fait en sorte que sur le flanc gauche, t'as peut-être un Bouillon qui est capable de montrer au sein d'une deuxième paire. Et là, donc, si t'es sur une deuxième paire, ça veut dire plus de temps de jeu. Et je me demande si on le veut un peu en série. Yves Bouillon a été parfois utilisé en avantage numérique à la pointe. C'est donc, si on l'utilise dans des meilleures situations, qui se retrouve avec des Kaprizov, des Boldy, des Zuccarello en avantage numérique et qui obtient sa barre de points, moi, ce que je lis, c'est que semble-t-il que physiquement, il a encore pris du coffre cet été. Donc, pour toutes ces raisons-là, là, finalement, j'ai changé d'idée. Je l'ai gardé dans les discussions.
Intéressant. Bon, les noms que je t'ai nommés depuis tout à l'heure, c'est quand même des noms assez connus. Si les gens s'intéressent un peu plus à la montée des espoirs, tout le monde le sait, là, que Nikishin, que Rinzel, que Snuggerud, ce sont des bons joueurs qui poussent dans la Ligue nationale. As-tu un joueur un peu plus obscur, qu'on parle peut-être un peu moins, qui pourrait venir brouiller les cartes?
Ouais, c'est un gars qu'on a surveillé un peu du côté des Islanders de New York, et lui, je le garderai en tête. C'est Maxim Shabanov, donc lui qui a signé comme joueur autonome sans compensation avec les Islanders le 2 juillet. Et je le surveillerai, mais premièrement, évidemment, les Islanders, il y a des opportunités, il y a des chances. Donc, moi, je pense qu'on devrait le voir au sein d'un top 6 ou d'un top 9. Là. Il va se battre essentiellement avec des Anthony Duclair, des Jonathan Drouin, mais je pense qu'il y a quand même de bonnes chances. Shabanov, c'était le troisième meilleur pointeur de la KHL l'an dernier. Il jouait avec Benoît Groulx, avec le tracteur de Chelyabinsk. Chelyabinsk a quand même atteint la finale. Groulx, on le sait, c'est un entraîneur qui est, premièrement, dur sur les détails et qui arrive juste et qui a une vaste expérience en Amérique du Nord, donc je pense que ça aide un gars comme Shabanov. Mais Shabanov, je te dirais, c'est quelqu'un qui est bourré de talent. Il a énormément de mains, de créativité, capable de tenter toutes sortes de choses, mais c'est un gars qui est quand même bon défensivement. Capable de s'impliquer beaucoup. C'est le premier qui revient dans son territoire et tout ça. Mais tu sais, le coup de patin est bon, il a quand même un excellent lancer aussi. Je pense qu'avec tous ces aspects-là et le fait que les Islanders, il n'y a pas énormément de profondeur au niveau offensif, je pense qu'on peut très bien le voir au sein d'un top 6. Tu sais, disons, avec peut-être un Cal Palmieri ou un Jean-Gabriel Pageot, s'il est capable d'aller chercher, moi je pense que, tu sais, parfois il y a quelques Russes avec lesquels ça n'a pas fonctionné. Moi je pense qu'il est capable d'aller chercher environ un minimum de 40 points et peut-être même plus. Là, je suis très conservateur dans mes données. Mais tu regardes les joueurs qui ont obtenu 40 points l'an dernier. Will Smith a obtenu 45 points. Cutter Gauthier en a eu 44. C'était les 4e et 5e meilleurs pointeurs chez les recrues. Et ils ont été un peu considérés. Donc, pour toutes ces raisons-là, je suis obligé de me dire, je pense que Maxim Shabanov, même si on en parle moins que des Demidov, des Bouillon et des Nikishin, faut quand même l'avoir à l'œil.
Ouais, puis tout le monde se souvient de la connexion russe entre Patrick Roy et Alexander Radulov. Pourra-t-il répliquer ça avec Maxim Shabanov cette année? Ben, on a la réponse dans quelques mois. Merci, Marty.
Ouais, ça fait plaisir, les gars.
Salut, Marty.
Salut, bye-bye.